7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Émission spéciale aujourd'hui, vous allez découvrir qui sont les lauréats 2020 de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Une bourse qui récompense de jeunes journalistes et techniciens radio en Afrique. Un continent que nos collègues Ghislaine et Claude aimaient passionnément, qu'ils connaissaient en profondeur. Enlevé et tué à Kidal, dans le nord du Mali, le 2 novembre 2013. Leur nom, leur mémoire ne s'effacent pas grâce à un travail collectif. Cette bourse leur rend hommage pour la 7e année. Et finalement, c'est toute une jeune génération qui se voit reconnue, qui se voit récompensée par un jury de professionnels à qui nous allons donner la parole avec Cécile Mégy, la directrice de RFI. Il y a eu 350 candidatures pour cette bourse, énormément cette année. Enfin, 20 finalistes de 13 pays ont été sélectionnés. Et aujourd'hui, vous allez savoir qui sont les lauréats. Nous allons les appeler pendant l'émission pour leur annoncer qu'ils ont gagné la bourse. Nous sommes le 2 novembre, décrété par les Nations Unies, journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Des journalistes, vous le savez, qui payent un lourd tribut chaque année pour faire leur métier, informer le plus grand nombre.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Nous ouvrons cette émission spéciale avec Marie-Christine Saragosse, présidente de France Média Monde. Bonjour Madame la Présidente.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Cette bourse, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, est née dans un contexte tragique, mais elle est aussi porteuse d'espoir.
Oui, je crois vraiment qu'elle est porteuse d'un très grand espoir et qu'on avait absolument besoin de cette bourse pour surmonter la douleur, en tout cas la rendre féconde. Moi, je pense qu'on est nombreux, quand on se rapproche du 2 novembre, donc aujourd'hui, à se sentir pas très bien. Et encore, quand je parle de nous, je parle pas de Marie-Solange Poinceau et de Apolline Verlon, la maman de Ghislaine et la fille de Claude. Et cette douleur, il faut pas qu'elle tire vers le bas, il faut qu'elle nous fasse faire quelque chose qui nous tire vers l'avenir. Et c'est pour ça que cette bourse est une sorte de méthode de résilience pour continuer à honorer en effet leur mémoire, mais de manière extrêmement vivante. Et je crois qu'on a réussi cette année-là à faire que sur cette douleur du 2 novembre se greffe aussi un peu d'espoir.
C'est la transmission, c'est le passage de témoins, mais avec un haut niveau d'exigence aussi.
Ah oui, ça c'est très frappant. Enfin, j'en ai remis donc quelques-unes et j'ai été à Bamako, au Sénégal, enfin dans différents... en RDC l'année dernière. Et à chaque fois, on voit même physiquement que les candidats portent l'exigence de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas du tout quelque chose qui serait comme ça une bourse parmi d'autres. Non, ils doivent être à la hauteur de ces professionnels qu'ils mettent au sommet de l'échelle professionnelle. Et on sent qu'ils sont à la fois très heureux, mais aussi qu'ils ont une conscience de leur responsabilité. Et je trouve que c'est frappant. Et vraiment, c'est eux qui m'ont fait prendre conscience de cette exigence.
Vous parliez de résilience, Marie-Christine Saragosse. Cette bourse aurait pu être annulée cette année en raison de la pandémie, en raison de l'impossibilité de se déplacer sur le continent africain comme chaque année.
Ah mais ça c'était juste pas possible. Elle a simple idée qu'on n'aurait pas pu le faire. Je pense que toutes les imaginations, toutes les possibilités se sont mises en œuvre. Alors comme à chaque fois, cette bourse nous fait avancer parce que je pense qu'on a fait des progrès incroyables en termes de formation à distance. Et qu'une autre chose c'est qu'on s'est adressé à tous les pays d'Afrique francophone d'un seul coup. Alors que d'habitude on va dans un pays à la fois, donc forcément d'autres jeunes ne peuvent pas y avoir accès. Là c'était 25 pays d'un seul coup. Je trouve que bon, on est frustré de ne pas être physiquement présent, mais il y a aussi cette dimension qui compense.
Panafricaine, finalement.
Panafricaine.
La communauté internationale a fait de ce 2 novembre la journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Et ça aussi, ça pèse sur cette bourse.
Ça pèse et en même temps, ça marque que nos deux reporters ont marqué vraiment tous les esprits, que la France a porté ça devant l'ONU, cette idée de cette journée, que chaque année, il y a une mobilisation, on est avec l'UNESCO, on fait des choses. Et qu'en effet, il est clair qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans liberté d'informer et qu'il ne peut pas y avoir de liberté d'informer s'il y a impunité des crimes commis contre les journalistes. La boucle est bouclée, donc chaque année, il faut se souvenir qu'il faut protéger les journalistes partout dans le monde.
Merci Marie-Christine Saragosse.
Merci Emmanuel.
Présidente de France Média Monde. Et tout de suite, nous sommes en ligne avec la porte-parole de Reporters sans frontières. Bonjour Paulina Desmevel.
Bonjour.
Nous sommes presque à la fin de l'année 2020. RSF a recensé une trentaine de journalistes et collaborateurs médias tués dans l'exercice de leur métier. Est-ce que c'est un chiffre en baisse ?
Oui, tout à fait, c'est un chiffre en baisse. En fait, on est à 2 mois de la fin de l'année 2020 et Reporters sans frontières recense une trentaine de cas de journalistes tués dont on a pu établir de façon avérée qu'ils ont été tués à cause de leur activité de journaliste. Il y a aussi une dizaine de cas que nous sommes toujours en train d'investiguer pour voir effectivement si c'est bien dans l'exercice de leur fonction. Mais c'est un chiffre en baisse par rapport à celui de l'année 2019 qui lui-même était déjà fortement en baisse de 44% par rapport à l'année précédente. Donc on serait autour de 30, un peu plus cette année. Il faut évidemment expliquer un petit peu le contexte. Ce sont toujours de toute façon 30 journalistes de trop qui sont morts sur le terrain, qui ont été tués. Mais il faut un peu expliquer en fait les raisons de cette baisse. Bien sûr, il y a la situation sanitaire qui a contribué à faire que des journalistes ne se sont moins rendus sur les terrains de conflit, ont moins couvert les pays comme la Syrie, le Yémen ou l'Afghanistan, où beaucoup en fait périssaient les précédentes années. Et puis il y a une baisse aussi qui est due au fait que, de toute façon, aujourd'hui, les journalistes se rendent moins sur les terrains de conflit. C'est une réalité. Chaque année, bien sûr, nous déplorons des morts, mais beaucoup moins. Donc voilà l'explication, d'une certaine manière, de ce chiffre qui est en baisse par rapport aux années précédentes.
Une forme d'autocensure, hein, finalement. Au-delà de cette comptabilité, que fait RSF pour lutter contre l'impunité ?
Alors, il y a plusieurs choses et cette journée, en fait, peut faire évoluer la situation. L'enjeu, en fait, c'est de mobiliser les dirigeants et tous ceux qui ont un pouvoir et qui peuvent faire changer les choses pour qu'ils fassent en sorte que les systèmes judiciaires condamnent ceux qui perpétuent des crimes contre les journalistes. Alors, nous pensons, en fait, qu'il est plus que temps aujourd'hui de prendre des mesures concrètes. Nous avions lancé l'idée d'un mandat spécial à côté du secrétaire général de l'ONU, un mandat de représentant spécial pour la sécurité des journalistes. Et aujourd'hui, l'objectif est de mettre en place ce mécanisme concret qui applique le droit international et qui réduise enfin, finalement, le nombre de journalistes tués sur le terrain. Donc, nous lançons un appel à Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, afin qu'il tienne sa promesse. Quand il a pris ses fonctions en début de mandat, en fait, il s'est engagé à faire en sorte que la sécurité des journalistes soit vraiment un enjeu. Cela prendra du temps, mais je le ferai, c'est ce qu'il nous a dit. Et aujourd'hui, en fait, un peu plus d'un an avant la fin de son mandat, nous considérons qu'il est extrêmement important qu'il le mette tout en œuvre pour que ce mandat existe et qu'on puisse enfin trouver une action concrète pour mettre fin à cette impunité et protéger les journalistes.
Et c'est un appel à retrouver dans les éditions de RFI et sur le site rfi.fr. Merci beaucoup Paulina Desmevel pour ce bilan des crimes commis contre les journalistes. Vous êtes porte-parole de Reporters sans frontières. Nous allons maintenant donner la parole aux familles et aux proches de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Bonjour Apolline Verlon.
Bonjour Emmanuel, merci de nous recevoir dans votre émission.
Merci à vous, surtout Apolline, vous êtes la fille de Claude Verlon, notre collègue technicien assassiné au Mali en 2013. Votre père était un passionné de reportage, il aimait être sur le terrain. Cette bourse est dans la continuité de ses valeurs ?
Oui, elle est dans la continuité et c'est vrai que je suis forcément très émue parce que chacune des éditions de cette bourse, elle est, vous l'imaginez, un moment très particulier pour moi parce que d'abord, le chiffre accolé à chacune des éditions me marque chaque année le temps qui passe et avec lui, la vérité qui s'éloigne un peu plus sur les circonstances de la mort de mon père et de Ghislaine. Ça fait quand même désormais 7 ans qu'ils ont été assassinés. Et il faut bien le dire, nous ne savons toujours pas grand-chose de ce qui s'est passé ce 2 novembre 2013 à Kidal. Mais voilà, cette bourse, c'est aussi et surtout la mémoire vivante de Claude et de Ghislaine. Et voir renaître chaque année dans l'engagement des équipes d'RFI, dans la motivation des candidats, la ferveur avec laquelle mon père y faisait son métier, cela m'émeut toujours autant et ça m'apporte un précieux réconfort. Et forcément, cette année, elle est particulière et elle ajoute à ce sentiment. Alors oui, les conditions sont particulières. La forme de cette 7e édition est différente, mais elle existe. Et des journalistes et des techniciens en devenir vont être accompagnés par RFI et ses partenaires, Sciences Po et l'INA. Et c'est ça, la magie de la radio. Et le contexte, les difficultés, les terrains hostiles, les problèmes techniques, tout ça, ça existe, oui. Mais rien ne peut, et surtout rien ne doit t'empêcher d'informer et de faire circuler l'information. Et vous devez le savoir, Emmanuel, pour être plusieurs fois parti avec mon père, oui, qu'il aimait employer une expression quand il faisait faire pousser la radio dans des endroits et des situations les plus compliquées, il disait l'important, c'est d'émettre. Et je pense que l'édition 2020 de cette bourse, eh ben, c'est une nouvelle illustration de cette philosophie qui animait papa. Et surtout, en ces temps où l'actualité nous rappelle, malheureusement trop souvent, la fragilité de la liberté d'expression.
Merci à vous, Apolline Verlon. C'est ce que nous faisons contre le silence, contre l'oubli. Merci infiniment, Apolline Verlon. Nous sommes aussi en ligne avec vous, Elisabeth Dubosc-Vanier. Bonjour.
Oui, bonjour.
Un droit à l'information libre, c'était le chemin que suivait avec conviction votre amie très proche, Ghislaine Dupont.
Voilà, moi j'étais surtout une amie de longue date et donc nous avons vraiment vécu une amitié indéfectible, mais en traversant à la fois de grandes joies, de rire et de bonheur, et aussi de tristesse. Hein.
Une association, les amis de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, s'est créée au lendemain de leur décès, contre le silence, contre l'oubli, c'était important pour vous ?
Ah ben complètement, et de partager surtout ce deuil infini et d'entourer Marie-Solange, la maman de Ghislaine, d'être ensemble en association, surtout pour comprendre les circonstances jamais encore élucidées du crime et lutter effectivement contre le silence et l'oubli, contre l'impunité des crimes commis envers les journalistes à travers le monde, comme vous le disiez tout à l'heure. Et donc à ce propos, voilà, l'association œuvre beaucoup au niveau du Conseil européen, par exemple. Nous adhérons également au collectif Secret Défense pour accéder au dossier. On essaye d'œuvrer le plus possible avec beaucoup d'ardeur depuis toutes ces années.
Et vous souhaitez aussi transmettre pour les auditeurs de RFI un message de la maman de Ghislaine Dupont.
Je pense en tout cas bien affectueusement à elle, Marie-Solange. Hein. Voici son message. Je salue cette belle initiative, si fidèlement reconduite avec RFI, l'INA et Sciences Po. Fin de citation.
Merci beaucoup Elisabeth Dubosc-Vanier. Et puisque vous parliez de l'enquête ainsi que Apolline Verlon, bien sûr, je voudrais préciser aux auditeurs que tout au long de ce lundi, RFI diffuse un point enquête dans chacune de nos éditions. Et puis des invités aussi pour commenter la journée du 2 novembre, cette journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Tout ça est à retrouver aussi sur RFI.fr. Dans quelques minutes, vous allez découvrir qui sont les deux lauréats journalistes et techniciens radio. Nous allons les appeler dans leur pays. Et Cécile Mégy, directrice de RFI, va leur annoncer qu'ils ont gagné la bourse, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Bonjour Cécile Mégy.
Bonjour Emmanuel.
Directrice de RFI. Alors pour ceux qui prendraient cette émission en cours de route, émission spéciale consacrée à la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon qui récompense chaque année, 7e édition hein, maintenant, un journaliste et un technicien ou une technicienne radio de moins de 30 ans. Cette bourse maintenant, c'est vrai que vous avez, ça y est, il y a une vitesse de croisière, il y a une génération pratiquement de jeunes reconnus, récompensés.
Oui, 7e édition, c'est quand même quelque chose de marquant. Et puis bon, ça a été rappelé depuis le début de l'émission, mais cette édition 2020, elle a subi des à-coups, des contre-coups, et vraiment je dois vous dire ma fierté, ma satisfaction du travail d'équipe qui a été mené avec les partenaires de l'INA et de Sciences Po, l'école de journalisme de Sciences Po, mais avec toutes les équipes ici à RFI, à France Média Monde, pour que ça se tienne. Parce que ça a été dit par Apolline, ça a été dit par Elisabeth de la part de la maman de Ghislaine. Il n'était pas possible qu'il n'y ait pas d'année 2020 et d'édition 2020 de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Elle est installée, elle existe dans notre calendrier. Et chaque année, cette date nous marque tous. On se souvient tous de ce qu'on faisait le 2 novembre 2013. Chaque année, on revoit et on transmet, et c'est vivant.
Alors, du coup, ça veut dire qu'il y a eu une formation en ligne pour ces jeunes, puisqu'ils étaient tous à distance. Le concours était ouvert à 25 pays en même temps. Muriel Pomponne, Rachel Locatelli pour la technique, Muriel pour le journalisme, les ont vraiment accompagnés pour la réalisation de ce qui allait être évalué ensuite en jury.
Voilà, exactement. Et alors, d'habitude, on va dire, les années précédentes, dans le monde d'avant, on va dans un pays, on s'installe pendant 15 jours après avoir sélectionné 10 journalistes, 10 techniciens, nos formatrices que sont Rachel Locatelli, Muriel Pomponne est vraiment là, mille merci et salutations pour ce travail incroyable qui a été fait cette année. Elles sont restées les formatrices et les deux tenantes de ces formations. On a élargi un petit peu le temps, on s'est donné 3 semaines après la sélection des 10 journalistes et des 10 techniciens pour autour d'une plateforme dédiée pour le travail à distance, ces jeunes puissent s'exercer à leur rythme et selon leurs emplois du temps, faire des thèses, des QCM, avoir ce qu'on appelle des tutos, du tutorat en ligne. Enfin, tout a été déployé pour qu'ils puissent apprendre pendant 3 semaines des choses nouvelles.
Les auditeurs qui nous écoutent se demandent, mais qu'est-ce qu'on gagne avec cette bourse? C'est-à-dire, moins trivialement, quels sont les engagements de RFI et des partenaires aussi pour les lauréats?
Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Déjà, quand on est sélectionné, 10 techniciens, 10 journalistes, on gagne de la formation en ligne cette année, 15 jours à 3 semaines de formation, d'entraînement, de nouvelles compétences, de montée en compétences pour vraiment voilà, l'enseignement. Ensuite, il y a un concours, il faut bien qu'il y ait des lauréats, donc il y a un technicien, une technicienne, un journaliste lauréat, on va bientôt savoir qui c'est, qui sont accueillis. Alors, à l'hiver européen, donc en mois de février à peu près, entre février et mars, pendant un mois complet, aux frais de RFI et de France Média Monde, accueillis à Paris pour venir une semaine dans notre rédaction à RFI, 2 semaines chez nos partenaires, l'INA pour le technicien, l'école de journalisme de Sciences Po pour le journaliste, et ils reviennent la dernière semaine à RFI pour nous montrer combien ils ont fait des progrès, parce que chez nos partenaires, là encore, on apprend, on s'exerce, et la dotation, c'est de se perfectionner, de s'améliorer, d'échanger avec les équipes parisiennes de toutes ces organisations. Et je pense que là, c'est une expérience quand même, ils nous le disent, c'est pas moi qui l'invente, assez extraordinaire de pouvoir venir un mois à Paris de cette façon-là.
Alors justement, les partenaires sont avec nous aussi chez 7 milliards de voisins. Bonjour Vincent Hugeux.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po Paris. On connaît aussi vos articles à l'Express, vos livres. Pourquoi Sciences Po est partenaire de cette bourse?
Je dirais que l'institution Sciences Po tient à rester fidèle à sa vocation universaliste. Et dans une période propice à la polarisation, à la radicalité, au simplisme, au populisme, il faut rester fidèle à cet engagement-là. De plus, Sciences Po, voilà une quinzaine d'années, a enrichi son offre pédagogique en lançant cette école de journalisme qui a cette vocation spécifique à former des journalistes d'élite. Et c'est d'ailleurs pour moi un privilège d'y être associé. Le hasard qui n'existe pas fait bien les choses. J'ai la chance depuis un quart de siècle maintenant de sillonner le continent africain. J'ai celle d'enseigner à Sciences Po et j'ai celle surtout de siéger au sein de ce jury. Et je vois à quel point il y a la construction, année après année, d'un véritable réseau. C'est un peu comme si il y avait une dissémination, non pas seulement d'un savoir technique, de la boîte à outils, mais aussi d'un esprit. Et ce qu'on essaye, au fond, d'enseigner dans nos locaux à Sciences Po, mais ici à RFI, à l'INA aussi, c'est que le journalisme, pour rester vivant, dans ce contexte d'adversité extrême, il doit être exigeant, il doit vouloir toujours vous porter vers le mieux, vers l'apprentissage. Et en cela, on est parfaitement à l'aise et très fier d'ailleurs d'y être associé.
Nous sommes aussi en ligne avec Alain Roca de l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA. Bonjour Alain Roca.
Bonjour.
Vous êtes directeur délégué à la formation au Conseil et à l'International. Pourquoi l'INA a tenu à être partenaire de cette bourse?
Ah ben, on est super fiers d'être partenaire de cette bourse. D'abord parce qu'on partage les mêmes valeurs que RFI. Et c'est toujours agréable de travailler avec des équipes qu'on côtoie sur le terrain assez souvent. Que l'INA a une longue histoire avec l'Afrique francophone en particulier, qu'on est quand même le centre de formation de référence au métier de l'audiovisuel, et qu'on est extrêmement fiers que tout ce qu'on fait en matière de transmission des savoirs, tout d'un coup, ça puisse s'incarner dans... Pourquoi on fait ça? Pour qu'un certain nombre d'individus, de personnes courageuses, bien formées, permettent aux citoyens de la planète de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et là, tout d'un coup, on nous appelle pour aider la mémoire de Ghislaine et de Claude, bah, on arrive en courant. Hein.
Et on est ravis de vous avoir. On approche lentement mais sûrement de l'annonce des lauréats, Vincent Hugeux, Alain Roca, et puis on va attendre d'autres membres du jury ensuite. Mais vous étiez dans le jury. Il faut rappeler qu'il y a eu 248 candidatures pour les journalistes, 102 pour les techniciens. Ensuite, tout ça, ça s'est réduit à 10 et 10, donc 20 finalistes. Hein. Technicien, journaliste. Et là, vous avez dû faire un choix. Juste en un mot, Vincent Hugeux, ça a été dur, ça a été houleux, il y a eu des discussions, ça a duré longtemps.
Ça a été âpre, ça a été discuté, ça a été presque tumultueux parfois. Alors, pour être tout à fait franc, dans une catégorie, la catégorie technicien, je dirais que le choix a été plus évident, plus facile. Il s'est imposé de lui-même, donc ça a balayé les doutes éventuels. En revanche, je peux vous dire que les débats pour décerner le titre à la catégorie journaliste, alors là, ont été homériques.
Vous êtes étripé, Alain Roca?
Non.
Moi, non, je dis non. C'est très pas. Mais ce qui est formidable, c'est l'incroyable énergie qui se dégage de tous ceux que nous, on a pu entendre. Et ça nous fait imaginer, parce que nous, on n'a que la sélection qui est proposée au jury. Mais on peut imaginer toute la base de cette pyramide qui a été remontée. C'est extrêmement enthousiasmant de ressentir ça très concrètement quand on écoute le reportage.
Merci en tout cas à tous les deux. Vincent Hugeux pour Sciences Po Paris, partenaire donc de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, et Alain Roca de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel. Merci à tous les deux. Dans quelques instants, nous allons annoncer le résultat de la bourse Claude Verlon, Ghislaine Dupont, Claude Verlon, peu importe. En tout cas, ils auraient été très fiers, tous les deux, de cette tradition désormais. Denise Epoté, Jean-Baptiste Placa, bonjour à tous les deux. Bonjour Denise.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour,
merci.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Juste un petit mot. Alors, le jury, ça a été compliqué, difficile pour vous de faire des choix?
C'était pas simple de toute façon quand vous mettez des professionnels autour d'une table pour faire un choix, c'est toujours compliqué. Quoi.
Ouais. Et puis tout de suite, vous avez envie de défendre votre point de vue et votre passion aussi pour ce métier. Bon, Cécile Mégy, on arrête le suspense.
Et on arrête le suspense.
Qui sont les lauréats 2020 de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon? On va le découvrir chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous allons tout simplement, puisqu'on l'a dit, cette bourse s'est déroulée dans des conditions particulières, à distance. Nous allons tout simplement les appeler au téléphone dans leur pays respectif pour leur annoncer dans quelques instants. Suspense.
Et donc on appelle
pour la catégorie technicien radio. Il n'y avait que des hommes dans les 10 finalistes pour la catégorie technicien radio. Ça reste un métier assez masculin.
Il y a eu
d'ailleurs
quelques femmes et il y a eu une femme lauréate.
Allô?
Oui, allô.
Allô, bonjour. C'est Emmanuel Bastide de 7 milliards de voisins.
Ok, enchanté. Romain Bouda.
Romain Bouda, voilà, merci. Vous êtes en ligne avec nous. Je vais vous passer Cécile Mégy, la directrice de RFI, Romain.
Bonjour Romain. Je suis heureuse de vous entendre et vous avez annoncé votre nom et moi je vous annonce que nous sommes très heureux et très fiers de vous désigner comme le lauréat de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon 2020 dans la catégorie technicien. Voilà.
Youpi.
Et on est heureux d'entendre que vous êtes heureux. Il y a du monde autour de vous.
Il y a la famille derrière là, les applaudissements, c'est qui?
Il y a la famille, Sabrine Pomerie.
Formidable.
Je suis très heureux, je suis ému.
Eh bien, nous aussi, Romain.
Voilà.
On est tellement content de vous entendre comme ça au téléphone. Romain Bouda, vous êtes donc burkinabé. Vous travaillez pour la radio-télévision burkinabé à Ouagadougou.
C'est ça, exactement ça.
Et votre reportage, c'était ce qu'on appelle dans notre jargon un tout sonore, c'est-à-dire que il y avait des ambiances, quelques brèves interviews, nous n'entendions ni votre voix ni celle d'un autre journaliste.
Et il y avait une thématique, sur laquelle travaillaient tous les journalistes sur la même thématique. C'était assez large.
Oui, c'était assez large, mais bon, ça donnait un cadre. Ouais. Les métiers de la rue. Et Romain, je peux peut-être vous laisser nous le dire. Vous avez choisi quel métier?
Moi, j'ai choisi la mécanique des engins à deux roues.
Allez, Romain, Romain, oui. On va écouter tout de suite votre travail. Au Burkina Faso, l'explosion du nombre d'engins à deux roues a entraîné le développement d'une activité dans la capitale Ouagadougou. Il s'agit de la mécanique. Pour les acteurs, il faut juste flairer le bon emplacement dans la rue. Ils sont comme des urgentistes qui gagnent leur vie en dépannant les engins. Romain Bouda a passé quelques instants dans un atelier.
Je me nomme Belém Karim, je suis mécanicien sur la voie rouge. La moto refuse de démarrer et j'ai senti vraiment que la bougie est noyée. Donc, c'est forcé que je fais sortir la bougie.
Hey, Karim, c'est ma chaîne.
Hey, Issa, s'il te plaît, va gérer la chaîne de la moto là rapidement pour le monsieur. Je me suis installé au bord de la voie ici parce qu'il y a trop de motos à Ouagadougou. Surtout avec coronavirus, tous ceux qui avaient déposé leurs motos ont repris pour ne pas se faire coincer dans les bus et dans les taxis.
Je m'appelle Ouedraogo Issa, apprenti mécanicien. Je ne suis pas allé à l'école. Ce que je fais ici, c'est tirer les chaînes et changer les bougies.
Voilà,
madame, votre moto est finie. Ça va?
Suzanne Kandema. Actuellement, je suis satisfaite. Comme il a pu réparer à temps, je vais pouvoir aller au boulot tranquillement, quoi. Et bonne suite.
Denise Epoté, on y est là dans cet atelier de rue. On a l'impression qu'on est quasiment en train de réparer notre propre moto.
C'est vrai parce que Romain Bouda a su retranscrire justement cette atmosphère de tous ces petits mécaniciens qu'on trouve au coin des rues de Ouagadougou, qu'on appelle d'ailleurs Ouagadourou parce que c'est la capitale de roues, à la fois des motos mais également des vélos.
Jean-Baptiste Placa, vous, qu'est-ce qui vous a plu dans ce sujet, ce tout sonore sur 1 minute 30 du technicien Romain Bouda?
Oui, quand le journaliste va sur le terrain, il raconte. Le technicien, avec son micro, vous fait vivre un événement comme si vous y étiez. C'est ça le reportage du journaliste, du reporter de son, disons.
Romain Bouda, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous savez à quel moment ou pourquoi vous avez voulu devenir technicien radio dans votre vie?
Moi, je me suis inspiré d'un grand frère qui était dans le quartier, qui était technicien dans une radio privée. Donc, après, quand je suis allé à l'université, j'ai commencé à inspecter et la radio nationale qui était juste à côté de l'université de Ouagadougou. Et je me suis renseigné, on m'a dit qu'il faut passer par un concours, une formation. Je me suis lancé dedans et Dieu merci, j'ai eu le concours, j'ai suivi la formation et puis voilà. Et je suis devenu technicien.
Eh bien voilà, enfin c'est pas si simple, hein. Vous nous dites voilà comme si c'était simple, vous avez beaucoup travaillé. Merci en tout cas, bravo à vous. Romain Bouda, les grands frères je crois que, et grandes sœurs de Denise Epoté. Vous pouvez le féliciter.
Ah oui, je le félicite. Et puis, comme il travaille, je crois qu'il travaille à la radio nationale.
Oui,
hein.
Oui.
Donc, c'est très bien pour la radio burkinabé de savoir qu'il y a un ingénieur de son de la qualité de Romain Bouda.
Vous restez en ligne avec nous, Romain Bouda, hein, parce que peut-être tout à l'heure, vous allez entendre des conseils des anciens lauréats. Alors maintenant, nous allons récompenser la deuxième catégorie, Cécile Mégy. La catégorie journalisme.
Oui, la catégorie journalisme. Alors, on va passer le petit coup de téléphone, peut-être.
Le petit coup de téléphone sur le continent, ça appelle.
Et la catégorie journaliste, là, il fallait que le journaliste réalise un reportage de 3 minutes 30 sur un sujet lié au lien, à la rencontre.
Allô ?
Allô ?
On a quelqu'un en ligne.
Charles Donatien Abosolo-Oba.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, c'est Emmanuel Bastide de 7 milliards de voisins sur RFI qui vous appelle.
Oh, enchanté, enchanté.
Je vais vous passer Cécile Mégy, la directrice de RFI, Donatien.
D'accord.
Bonjour Donatien.
Donc je suis... Bonjour Madame Cécile Mégy.
Je suis très heureuse de vous appeler parce que je vous annonce au nom de RFI, de l'École de journalisme de Sciences Po et de l'INA que vous êtes le lauréat 2020 de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Et j'entends que vous avez du monde autour de vous, peut-être aussi.
Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. J'étais impatient, j'attendais la nouvelle. je suis débordant de joie, vraiment.
Bon, bah, écoutez, ouais. nous sommes très heureux de vous remettre un peu virtuellement, là, par téléphone, ce trophée de la Bourse 2020.
Charles Donatien à Bossolo au bas, on a entendu votre émotion, votre joie surtout. Et maintenant, vous savez quoi ? On va écouter votre travail.
Elle est à l'origine de la rupture du dialogue dans certains foyers au Cameroun. Bien que légale dans le pays, la polygamie est loin de faire l'unanimité aujourd'hui, surtout dans la région à majorité chrétienne du Sud. Dans la ville d'Ebolova, par exemple, les hommes tentés d'avoir plusieurs épouses se heurtent à une résistance farouche des femmes, de moins en moins nombreuses à tolérer cette pratique. Le reportage de Charles Abosolo Oba.
La nuit vient de jeter son épais voile obscur sur Ebolova. Dans sa modeste demeure en Kovo, un quartier au centre de la ville, Minette Abomo est entourée de ses deux filles et de ses petits-enfants. Devant la télévision, la soirée est conviviale, mais au moment d'évoquer son passé conjugal, son visage se ferme. La femme de 50 ans retient à peine ses larmes.
Après 7 ans de mariage, il a pris une autre femme en ville, alors qu'il m'a abandonnée au village. Arrivé chez mon mari, ma coépouse m'a dit de ne plus jamais revenir et que ma place était désormais dans les champs avec mes enfants. Mon mari était d'accord. Au lieu de vivre cet enfer, j'ai décidé de l'oublier et de me battre toute seule pour élever mes enfants jusqu'à ce jour. Quand il me voit, il fuit.
Ce reportage de Charles Donatien Abosolo Oba qui vient donc de gagner la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon dans la section journalisme est à retrouver, tout comme le reportage Le Tout Sonore du technicien Romain Bouda, est à retrouver sur le site rfi.fr. Denise Epoté, Vincent Hugenou nous l'a dit tout à l'heure, dans la catégorie journalisme, ça a été un peu houleux, hein, les débats, pour départager les talentueux finalistes.
C'est vrai, parce qu'il y avait deux reportages. Ces deux-là se démarquaient nettement du lot. Hein. Jean-Baptiste. Et on a eu de longues discussions pour les départager.
On a voté trois fois.
Ah ouais, vous avez voté trois fois. Et Jean-Baptiste Placa, vous
Je pense que ce sont de bons professionnels. Ils le sont déjà, ils le seront de mieux en mieux. Et je crois que le journalisme a besoin de personnes comme eux.
Cécile Mégy ?
Oui, c'était, voilà, homérique, je ne sais pas, on a été très civilisés, mais effectivement, on a procédé à plusieurs votes pour arriver à les départager. Ce qui était intéressant, c'est que dans la diversité des choix de sujets, ça allait de la stérilité, l'adultère, la polygamie, c'est le lauréat, les microbes, ces petits-enfants des rues à Abidjan. Voilà, on a eu un florilège de sujets de société qui montraient l'attachement aussi de ces jeunes professionnels à ce qui les entoure et à la façon dont ils doivent le raconter aux auditeurs et au public en général.
Charles Donatien Abosolo Oba, vous êtes toujours en ligne avec nous. Vous êtes Camerounais, donc vous vivez à Ebolowa, au sud du Cameroun, hein, où vous travaillez comme journaliste reporter pour l'antenne locale de la radio-télévision camerounaise.
Bien évidemment, c'est cela.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir journaliste ? C'était une envie irrépressible depuis très longtemps ? Il y a quelque chose, il y a une rencontre qui a déclenché ça ?
J'ai toujours eu envie d'être journaliste depuis que je suis tout petit, mais véritablement c'est en classe de première que je m'engage dans les émissions des jeunes à la station régionale Cercle-Sud justement. J'ai nourri ma passion comme ça jusqu'en terminale et après mon baccalauréat j'ai eu la chance d'avoir directement le concours d'entrée à l'ESSIC et là-bas j'ai rencontré des grands professionnels comme les professeurs, professeurs d'Mbimbé, Daniel Anissé-Noir et bien d'autres qui venaient même d'autres pays pour nous entraîner. Et c'est comme ça que la passion a grandi. Et aujourd'hui, je ne me vois certainement pas en train de faire autre chose. Je suis vraiment passionné de ce métier.
Restez en ligne avec nous parce qu'on a appelé les anciens lauréats de la bourse de l'année 2019. Nous sommes en ligne avec Myriam Iragi-Maroy, journaliste à Top Congo FM à Kinshasa en RDC. Bonjour Myriam.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Vital Mugisho, vous êtes à Nairobi. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vital, vous êtes technicien réalisateur radio pour RFI en Swahili. Depuis que vous avez été lauréat 2019 dans la catégorie technicien de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. À tous les deux, j'aimerais poser la question, qu'est-ce qui vous a marqué lors de votre passage à RFI, de l'obtention de cette bourse, Myriam ?
J'aimerais d'abord commencer par féliciter les deux lauréats, Romain et puis Charles. Félicitations à vous et bienvenue dans la grande famille. Et donc, pour parler de mon parcours à Paris, je dirais qu'à RFI comme à Sciences Po, évidemment, j'ai été vraiment marquée par beaucoup de choses, à tel point que les connaissances acquises, que ce soit à RFI, que ce soit à l'école de journalisme de Sciences Po, m'a permis aujourd'hui de comprendre comment, dans ma vie professionnelle, je pourrais concilier bien de choses. Parce que, en réalité, c'est vrai que dans la pratique de ces métiers, c'est là qu'on trouve la différence, puisque là, théoriquement, on enseigne les mêmes choses, les règles basiques sont les mêmes, mais ça, c'est dans la faisabilité, dans la manière de faire, dans les approches, dans l'intérêt, dans le public que nous avons, selon qu'on est au niveau local, national ou international, qu'on sent maintenant que la manière de faire diffère. Et donc ça, ça a été vraiment une très belle occasion pour moi de voir comment les choses sont faites ailleurs, notamment là je parle de RFI, RFI qui a toujours eu cette couverture internationale dans la mesure où c'est écouté partout en Afrique et même dans le monde.
Croiser des regards. Vital Mouguichot, vous, qu'est-ce qui vous a marqué lors de ces rencontres, de votre passage à RFI après l'obtention de la bourse ?
Le passage chez RFI, vraiment, c'était pour moi, disons, une grâce. D'abord, parce que avec le formateur avec qui j'ai passé ces 2 semaines, et l'équipe qui m'encadrait, vraiment, c'était quelque chose de spécial pour moi. Et j'ai appris beaucoup de choses à travers mes encadreurs. En passant, je vois Philippe et Rachel et toute l'équipe de la RFI.
Ouais, c'est sympa de leur passer le bonjour.
Et moi, je me permets de les saluer aussi, Vital et Myriam, parce que quand ils parlent de cette grande famille, elle est très, très grande. Hein. 7e édition de la Bourse, à chaque fois 20 stagiaires, 20 potentiels lauréats. Ouais, et c'est tous ensemble.
140 jeunes.
Ça fait 140 jeunes. Ouais, un vrai réseau. Ouais. Et le réseau panafricain des anciens boursiers de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, c'est quelque chose de vraiment... très important.
Un dernier mot, Vital Mouguichot, peut-être un conseil à donner aux lauréats de cette année à votre collègue Romain Bouda du Burkina Faso, technicien lauréat de la Bourse 2020.
Avant tout, je passe mes félicitations et pour tous les 19 autres participants à la Bourse, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, je peux leur dire que l'important c'était de prendre part à la formation, chose qui n'a pas été, chance qui n'a pas été donnée à tout le monde. Et ceux qui ont participé à cette formation auront beaucoup de choses à prouver dans leur carrière professionnelle.
Vous avez raison de le souligner, hein, Vital, parce que ces 20 finalistes, ils ont profité de cette formation pour pouvoir concourir, bien évidemment.
Oui, et c'est l'intérêt que ce soit une bourse et qui bénéficie à tous. Les lauréats ont évidemment quelque chose en plus, mais je pense que le socle de cette formation et ce que nous avons comme retour, ce que Rachel Locatelli, Muriel Pomponne ont comme retour et entretiennent hein, aussi ce réseau, c'est que ça leur bénéficie, moi, j'ose pas dire toute leur carrière, mais là, dans leur carrière naissante à tous, c'est un bond en avant considérable.
Myriam Iraghi-Maroy, vous avez un petit conseil à donner au nouveau lauréat 2020 ?
Oui, bien évidemment. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que tout simplement, être lauréat ou lauréat de la bourse Ghislaine et Claude apportera certainement plus de notoriété en tant que journaliste, mais je pense encore plus. Et ça, c'est quelque chose, que ce soit les nouveaux et nous les anciens devrions garder en tête, c'est que ça nous imposera toujours l'esprit du travail bien fait.
Formidable. En tout cas, bravo à vous, les lauréats de la Bourse 2020, ceux de l'année dernière et des autres années. En tout cas, ils ont moins de 30 ans, ils ont une passion, la radio et l'information. Vous informez les voisins et les voisines, et vous allez sûrement d'ailleurs entendre parler d'eux pendant quelques années encore, si vous habitez dans le même pays. Denise Epoté et Jean-Baptiste Placard, vous êtes tous les deux des grands noms africains du journalisme francophone. Comment vous voyez, sans être désagréable, mais la relève, le passage de témoin entre vous et la jeune génération, Denise ?
Alors déjà, ce que moi je peux dire, c'est que en tant qu'ancienne de l'école internationale de journalisme de Yaoundé, une école que j'ai faite avec Jean-Baptiste, pas la même époque parce qu'elle était 2 promotions ou 3 promotions avant moi, on a l'occasion, nous les anciens de l'école, de de faire du tutorat avec les jeunes de l'école, ou alors de l'école de Dakar, qui était un peu l'école jumelle de l'école de Yaoundé. Je pense notamment à un exercice récent qu'on a fait dans le cadre du jury Panos, avec des jeunes journalistes issus de l'école de Dakar, qui compétissaient pour le jury Panos sur la thématique genre. Il y avait notamment une section radio, une section télé, presse écrite et presse en ligne. Donc on a toujours un lien avec les anciens. Je vais souvent au Cameroun et je retrouve soit à l'école, soit à la CIRTV, parce que beaucoup de journalistes de ma promotion sont en fonction à la CIRTV. D'ailleurs, le directeur général de la CIRTV actuellement est un ancien de l'école et même de ma promotion, Charles Ndongo. Et donc, le lien est maintenu et c'est comme ça qu'on essaye d'encadrer les nouvelles générations de journalistes.
Vous trouvez que les formations sur le continent manquent de moyens aujourd'hui, Denise ?
Le problème, c'est que à l'époque où on était tous les deux, Jean-Baptiste, à l'École supérieure internationale de journalisme, cette école était une école internationale. Et donc, il y avait une formation à la fois au Cameroun, mais également à l'étranger, notamment au Canada, en France et aux États-Unis. Et depuis que l'école a été intégrée sur le campus de l'Université du Cameroun, bon, malheureusement, les jeunes ne bénéficient plus de ces formations qui sont importantes.
C'est le moment de passer un message, peut-être.
Et c'est ce que disait d'ailleurs l'ancienne lauréate, c'est que ces formations à l'extérieur vous donnent une ouverture sur le monde.
Mais là, on a des jeunes talentueux, c'est peut-être l'occasion de passer un message sur le continent.
Ce qu'il faudrait, c'est que les ministères de la culture, de la communication ou le gouvernement donnent des moyens à ces écoles-là.
Jean-Baptiste Placa, vous, comment vous envisagez ce passage de témoin entre votre génération et la jeune génération ? Vous l'entendez, ils ont la pêche, ils ont du dynamisme, ils sont ultra connectés, ils ont envie de réaliser des choses dans le journalisme.
Par-dessus tout cela, il faut surtout qu'ils aient de la rigueur et du sérieux. C'est comme ça qu'ils avanceront dans ce métier. Et il y a énormément de journalistes, beaucoup qui entrent pour la gloire ou pour un certain nombre un attrait de la lumière. Ce qui est important, on devient un journaliste, nous n'en sommes pas, en tout cas moi je prétends pas en être, mais on devient un grand journaliste en étant sérieux, rigoureux tout au long de sa carrière. Et je pense que c'est une des leçons essentielles, et surtout qu'on comprenne aussi, parce que nous l'avons constaté là dans le jury duquel nous sortons, il y a eu du travail de qualité, mais le jury était tellement exigeant que les moindres petites fautes étaient relevées, parce que le journalisme en français, l'outil de base, c'est la langue, et la qualité de la langue est importante. On ne peut pas donner à des médecins qui ne connaîtraient pas l'anatomie humaine des bistouris pour ouvrir le corps.
La langue, c'est ce qui permet le récit, donc.
La précision. La
Jean-Baptiste Placa, vous êtes un homme modeste, mais vous savez aussi être cash, parce que quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit, moi je veux dire aux jeunes que le reportage, ce n'est pas un rapport de gendarmerie.
Bien sûr.
Qu'est-ce que
bien
vous voulez
sûr.
Dire par là ?
Bien sûr, on en a entendu. Ceux qui ont fait la présélection en ont certainement beaucoup entendu de rapports de gendarmerie, qui est une façon, j'allais dire, linéaire de... il est arrivé à telle heure, il s'est assis, et puis il a salué le monsieur, l'autre s'est levé, ils se sont séparés, etc. Mais un reportage, c'est amener les auditeurs, en l'occurrence, puisque nous parlons de radio, à vivre un événement comme s'ils y étaient. Donc vous les transposez sur le terrain. Et si vous décrivez une tornade sous la pluie, il faut que le lecteur ou l'auditeur, pardon, ait le sentiment qu'il est en train d'être mouillé par la pluie. Et c'est là que vous avez réussi votre travail.
Je pense que ce sont des conseils qui vont marquer certains jeunes qui nous écoutent et qui ont envie aussi.
C'est une leçon en direct. C'est une leçon de journalisme en direct. Il y a un élément que j'ajouterais, la passion. Et je pense que faire ce métier bien, tel que le décrivent Jean-Baptiste ou Denis, c'est aussi être passionné, et c'est ce qu'étaient Ghislaine et Claude. Et cette passion, absolument, c'est ce qu'on essaye aussi de transmettre à travers cette bourse.
Prochaine édition de la bourse, Ghislaine Dupont et Claude Verlon.
2021, remise 2 novembre 2021, réglée comme une pendule et nous n'y dérogerons pas.
Et on l'espère cette fois-ci de nouveau sans le coronavirus sur le continent
sans
africain.
Sans coronavirus de toute façon, sur le continent, avec nos équipes et on espère surtout recevoir ceux que je félicite encore une fois, Romain Bouda et Charles Donatien à Bossolo au bas à Paris cet hiver.
Merci beaucoup. Je suis heureux d'être primé pour cette bourse Ghislaine Dupont-Claude Verlon 2020. Merci à RFI pour cette formation et merci beaucoup pour le prix.
Charles Donatien.
Oui, merci grandement. Merci beaucoup.
Merci aussi à toute l'équipe de 7 milliards qui a préparé cette émission, qui nous a permis de vivre ce moment tous ensemble sur les ondes. Juliette Brault, Delphine de Dianous, Victor Hull. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast et les partager. On se quitte avec la lauréate du prix RFI Découverte 2019. Dans quelques jours d'ailleurs, vous allez découvrir les voisins et les voisines, le gagnant ou la gagnante 2020 parmi les artistes sélectionnés. C'est pour bientôt le résultat ?
Oui, c'est dans quelques semaines, au mois de novembre, dans le mois qui commence là, tout juste. Et là aussi, c'est la relève, c'est les talents, c'est la musique.
Et d'ici là, on écoute la lauréate 2019, Céline Bonsa de RDC. Elle n'a que 23 ans, elle touche à tout, avec succès. Chanteuse, vidéaste, actrice, performeuse. Son nouveau single, Na Mileli.
Qu'est-ce que tu disais dans tes lettres et tes messages? Que si jamais je pars, tu n'as plus d'histoire. Si jamais je pars, t'as plus de vie. Oh, oh. Qu'est-ce que t'as fait de nos photos, nos chansons, ma musique et moi-même? Oh, oh, oh. Abandonnant, je serai toujours présent. Mon cœur coule de sang. Dans mes rêves, je te vois.
Milliards de voisins, nous parlerons du bien-être animal, une préoccupation qui monte dans les opinions mondiales. Alors faut-il se soucier des animaux au même titre que les droits humains? Vous aurez la parole sur le WhatsApp 33 7 64 45 51 41 et bien sûr en direct chez 7 milliards de voisins. À demain.
Milliards de voisins, c'est fini.